dindons et de crêpes. Il se but en cette seule soirée plus de vin qu'on en buvait en une entière semaine. Et cela ne fut pas sans conséquence sur la fin de la nuit, pleine de cris, de rires, de stupres, d'échauffourées et de drames. Mais il en était ainsi chaque année, et les autorités politiques et religieuses laissaient faire, car cette nuit d'abandon où toutes les règles pouvaient être bafouées, rappelait justement que les autres jours de l'année, elles devaient être respectées. Et l'observateur averti conclura peut-être avec nous que la mascarade n'était pas celle qu'on croyait. Chapitre 25. Ce fut en ce matin du 28 février qu'Andreas Saint-Loup reçut d'Italie un colis qu'il attendait depuis fort longtemps et qui fut porté jusqu'à sa demeure par un marchand lombard avec lequel il traitait souvent. À peine le paquet livré, l'apothicaire l'emporta sans mot dire dans son laboratoire où il s'enferma. Quand les cloches de la paroisse annoncèrent le début de la célébration du mercredi des cendres, Robin vint frapper timidement à la porte. « Maître, nous allons être en retard pour l'entrée royale. » Andreas poussa un grondement de l'autre côté et ne répondit pas. On l'entendait s'affairer, déplacer des meubles, manipuler des outils tout en marmonnant. « Maître !» insista le jeune rouquin. « Tu me déranges, Robin.
Je suis désolé, mais nous allons être en retard. »«
Erreur de logique. Nous ne serons pas en retard puisque nous n'irons pas. »«
Mais nous y sommes obligés, maître malingré et souffrant. Vous êtes attendu par le prévôt des marchands pour le remplacer et représenter la confrérie des apothicaires. C'est un grand honneur que la Hanse vous fait. »«
Tu apprendras un jour à te défier des apparences. » Ce n'est point un honneur que l'on me fait, mais un piège que l'on me tend. Pour qui sait combien m'horripilent ces solennités vaines et orgueilleuses.
Mais enfin, mercredi des cendres, maître.
Je m'en tamponne allègrement le coquillard, mon garçon.
Robin resta muet, interloqué. Le mercredi des cendres était un jour fort important du calendrier chrétien qui marquait le début du carême. Pour l'occasion, loin des abandons de la semaine grasse, tout Paris assistait à une entrée royale. La merveille prenait alors toute son arrogante dimension. Centre politique et religieux du royaume, on lui accordait la plus grande attention à la hauteur de son prestige. Le corps de la ville et les Parisiens unissaient leurs efforts pour faire de cette journée un moment unique qui rapprochait prétendument les gens du peuple et leurs gouvernants. Ainsi, Philippe le Bel allait entrer dans Paris en tête d'un prestigieux cortège, accompagné de son frère Charles de Valois, de ses conseillers Guillaume de Nogaret et Enguerrand de Marigny, de l'évêque de Paris, Guillaume de Beaufay, mais aussi, comme le diocèse de Paris dépendait de la province ecclésiastique de Sens, de l'archevêque de Sens, Philippe le Portier de Marigny, qui, comme on l'a dit, était le demi-frère du chambellan. Une fois la procession terminée, une grand-messe se tiendrait en la cathédrale Notre-Dame, où les fidèles seraient marqués au front d'une croix de cendre bénie, évoquant la destinée future de leur corps.
« Maître, si nous n'y allons pas, ou plutôt si vous n'y allez pas, cela va faire un scandale !»
Là, Andreas ouvrit soudain la porte, se plaça devant son apprenti et le dévisagea d'un air fantasque.
« Je te le répète, Robin, je m'en tape jovialement les bourses. » « Qu'est-ce qui vous prend ?»«
Il me prend que j'ai reçu d'Italie un colis que j'attendais depuis des mois, et que j'ai donc bien mieux à faire que d'aller parader dans les rues comme un baudet pour fanfaronner à côté de notre faux monnayeur de souverain et de son égorgeur de Nogaret dont le seul mérite, je dois bien l'admettre, est d'avoir dûment taloché le pape.
Il n'y a rien de plus inepte qu'une cérémonie religieuse. La foi est une affaire personnelle, et sitôt qu'on n'est plus d'un à parler de Dieu, on se trompe, si bien que je crois que, comme moi, notre Seigneur soi-même s'en tape jovialement les divins testicules.
La religion, qui n'a de nos jours plus grand-chose à voir avec la foi, favorise, avec son lot de miracles et de guérisons fabuleuses, la superstition du petit peuple. La crédulité au dogme et la soumission aveugle au rituel sont les ennemis de la science et de l'expérience. Le seul véritable apport de la religion au monde moderne, c'est son art architectural et la traduction des textes d'Hippocrate, de Galien et de Cels, que l'on doit aux moines. Car si la plupart de ceux-ci sont des imbéciles et des gloutons,